La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus dans la matinale week-end d'RMC, il est 8h.
RMC, la matinale week-end.
L'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Anaïs et bonjour à tous. 600 gendarmes appuyés par le GIGN. L'État envoie ses troupes en ce moment pour sécuriser une route stratégique en Nouvelle-Calédonie. Nous serons sur place dans un instant. Dans l'actualité également, l'heure à la décrue dans le Grand Est. Deux départements toujours en vigilance orange ce matin alors que les habitants constatent les dégâts. Et puis en football, le dénouement de la Ligue 1, c'est ce soir. Marseille va-t-il notamment se qualifier en Coupe d'Europe? C'est pas gagné pour la dernière de son coach.
D'abord, l'État durcit le ton en Nouvelle-Calédonie.
Dispositif de gendarmerie massif déployé depuis quelques heures. Une centaine de militaires du GIGN en font partie. On vous retrouve en direct de Nouméa pour RMC. Nicolas Legrand, bonjour.
Bonjour.
L'objectif de cette vaste opération, Nicolas, c'est de reprendre la maîtrise d'une route stratégique de l'archipel.
Oui, c'est même la principale route de l'île, la seule d'ailleurs qui mène à l'aéroport international de la Tontouta. Depuis lundi, elle est totalement impraticable. De nombreux barrages ont été érigés par les militants indépendantistes. Et selon les services de l'État, certains seraient même piégés avec des bouteilles de gaz prêtes à exploser à tout moment. C'est donc une opération très délicate qui se déroule depuis ce matin. Le dispositif est conséquent. 600 gendarmes, dont 100 du GIGN, ont pour mission de libérer ces 50 km de route. Des blindés et des engins de chantier doivent également déblayer les nombreuses voitures calcinées le long du trajet. Et il faudra aussi déloger les manifestants. Une libération qui doit permettre ensuite la reprise du trafic aérien. Plus aucun vol commercial n'est opéré depuis le début de cette crise. 3200 personnes sont en souffrance, soit en attente de pouvoir quitter la Nouvelle-Calédonie ou d'y revenir. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, par exemple, attendent maintenant le feu vert de Paris pour évacuer leurs ressortissants.
Nicolas Legrand, en direct de la Nouvelle-Calédonie pour RMC. Merci Nicolas. J'ajoute qu'on a appris que les écoles de la province sud resteront fermées la semaine prochaine.
Et on viendra sur la crise en Nouvelle-Calédonie à 8h40. Sonia Lagarde, la maire renaissance de Nouméa, sera l'invitée de l'entretien RMC.
Dans l'actualité également, c'est cru qu'il se calme dans le Grand Est. Plus que deux départements sont ce matin en vigilance orange. Il s'agit du Bas-Rhin et de la Moselle, où l'on peut constater les dégâts, comme l'expliquait Pierre Lang, le maire de Frémin-Merlebach sur RMC.
Il y a des très gros dommages dans la piscine de Frémin-Merlebach où tout le sous-sol a inondé toutes les installations électriques et toutes les machineries. Le restaurant d'application du lycée Pierre et Marie Curie a également subi de très gros dégâts puisque l'eau a envahi les deux cuisines centrales qui se trouvent au sous-sol et qui ont complètement détruit ces cuisines centrales. Les dégâts se chiffrent en millions d'euros. Et nous avons sinon, au point de vue des habitations, un certain nombre de dommages, naturellement, dans les caves.
Le bilan du maire de Frémin-Merlebach sur BFM TV. La préfète du Bas-Rhin, quant à elle, a d'ores et déjà annoncé qu'elle soutiendrait toutes les communes qui demanderaient un classement en état de catastrophe naturelle. Dans l'actualité également, un responsable enfant sur chaque tournage avec des mineurs dès cet été. C'est la mesure annoncée par Rachida Dati au Festival de Cannes hier. Il s'agira d'une condition pour accéder aux aides du Centre National de la Cinématographie. Cette mesure, elle était réclamée par l'une des figures du mouvement MeToo, l'actrice Judith Godrèche, qui accuse les cinéastes Jacques Doyon et Benoît Jacquot de viol. La célèbre avenue Montaigne à Paris est de nouveau accessible ce matin. La zone, souvenez-vous, était bouclée jusque tard hier soir après le braquage d'une bijouterie de luxe. Aucun blessé à déplorer. Mais le casse a été spectaculaire à Naïo. Tout s'est passé extrêmement vite.
Moins de 3 minutes, c'est le temps qu'aurait duré ce braquage. D'après des témoins présents aux abords de la Seine, selon leur récit, deux motos arrivent devant la bijouterie. L'une d'elles fonce sur la porte d'entrée pour tenter de la faire plier. Pendant ce temps, un homme habillé tout en noir, casque sur la tête, monte la garde devant la boutique, armé d'une kalachnikov. Les trois hommes ont ensuite pris la fuite et très vite, la police est arrivée sur les lieux. À l'intérieur de l'enseigne Harry Winston, aucun blessé, mais le personnel en état de choc. À travers l'entrée de la boutique, hier après-midi, on apercevait encore le sol jonché d'éclats de verre et quelques vitrines brisées. La police judiciaire est restée sur place pendant de longues heures et le périmètre de sécurité n'a été levé que tard dans la soirée. On ignore encore le montant exact du butin, mais il se chiffrerait à plusieurs millions d'euros.
Les précisions d'Anna Huot pour RMC.
Le football, les soirées exceptionnelles sur RMC pour la dernière journée de Ligue 1.
Vous ne raterez rien du multiplex. 9 matchs en simultané dès 21h et nos correspondants sur tous les stades. Les stades où se joueront la place de barragiste pour le maintien, Metz qui accueille Paris et Le Havre contre Marseille. Les Marseillais qui doivent eux absolument gagner pour espérer décrocher un ticket européen la saison prochaine et aussi pour honorer leur entraîneur Jean-Louis Gasset avant sa retraite, Florent Germain.
Oui, une saison pénible pour l'OM, mais qui se termine sur une émotion, le dernier match de l'entraîneur Jean-Louis Gasset sur un banc de touche.
Que je reste dans le football, on se serve de bonne expérience, c'est une possibilité parce que je ne sais pas jardiner. Quoi, autant que je donne mon temps aux choses que je maîtrise, mais entraîneur, c'est terminé.
Gasset n'oubliera jamais les frissons que lui ont procuré notamment le stade Vélodrome.
Le match de Villarreal. Où on a fait le match parfait. Tous les entraîneurs rêvent de faire un match comme ça. Le petit plus, c'est la série de pénalty contre Benfica, où c'est des images qu'on regarde, cette communion des joueurs avec le public, ça restera gravé à jamais dans ma mémoire.
Il faudrait un miracle pour que l'OM retrouve l'Europe la saison prochaine, une victoire au Havre ce soir, et dans le même temps, une défaite de Lens ou de Lyon. Jean-Louis Gasset ose y croire un tout petit peu.
Tout est possible, tout c'est de jouer la chance à fond, même s'il reste 1% de chance, il faut gagner ce dernier match et je veux gagner ce dernier match.
Et donc verdict ce soir avec le débriefing évidemment de toute l'équipe de l'After. Avant cela, il y aura un Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui, celui d'Imola en Italie, départ 15h avec en pole position Max Verstappen sur Red Bull, la 7e pole cette saison, la 39e de sa carrière, le Néerlandais égale ainsi Ayrton Senna. Derrière lui s'élanceront Lando Norris pour McLaren et Charles Leclerc pour Ferrari.
Et puis passer la nuit au musée n'est pas qu'un scénario de film.
C'est aussi un événement européen. 20e édition hier soir de la nuit des musées. Le concept, il est assez simple. 3000 ont ouvert leurs portes en nocturne et même les moins en vue habituellement font carton plein, comme vous l'avez constaté au musée de la Monnaie à Paris, Margot Boult.
Il faut se faufiler entre les groupes pour aller de pièce en pièce.
On va dans la salle 5, là.
Il y a beaucoup de monde.
Et donc c'est vrai qu'on a du mal un peu à se repérer.
Léo, 26 ans, est venu visiter le musée de nuit avec ses amis Nivetta et Lilian. Au premier étage, il découvre les anciens outils qui servaient à fabriquer la monnaie.
Il y a des grosses presses. C'est pas facile à décrire.
Ça ressemble à un tire-bouchon de bouteille.
C'est très grand, ça fait 1 mètre de large à peu près.
La visite est interactive.
Il y a un jeu là, on va aller voir.
Après avoir attendu derrière une famille, les trois étudiants peuvent s'entraîner à frapper une pièce de monnaie.
Il faut force être de frappe, du coup, centré. Inclinaison et centré, ouais.
88%. Ah, plus de force que le monsieur.
Un peu plus loin, une autre activité.
Une dame qui fait des dessins de gravure.
La soirée est un succès, se réjouit Marc Schwartz, président de la Monnaie de Paris.
Assez plein, on n'a jamais eu autant de monde à la Monnaie de Paris. C'est un événement extraordinaire, c'est populaire, c'est joyeux, c'est animé. On est très contents, je pense qu'on est bien parti pour battre un record cette année.
Lors de la nuit des musées de l'année dernière, la Monnaie avait accueilli 3500 visiteurs.
Margot Boult qui avait bien fait son choix, hein, aller au musée de la Monnaie, pardon, parce qu'il y avait aussi le musée de l'égout à Paris qui participait à l'événement.
Ouais.
500 mètres de galeries souterraines, bon, apparemment sans l'odeur quand même. Hein.
Ouais.
Mais bon, Margot Boult a choisi le musée de la Monnaie.
C'est intéressant, mais bon, tiens, est-ce qu'il faut s'en étonner, hein? Merci beaucoup Victor, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 9h et l'information revient à 8h30 avec Martin Bourdin. C'est l'heure de jouer.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Au 10 minutes chrono, qu'est-ce qu'on gagne? Bon, une imprimante.
Une imprimante Realipix Mini d'Agfa Photo. En fait, c'est une imprimante que vous pouvez mettre dans votre poche, emmener partout. Et puis surtout, vous allez pouvoir imprimer instantanément les photos de votre smartphone en format carte de crédit.
Ah,
une idée absolument géniale.
Ouais. Vous avez toujours avec vous, dans la poche. Vos proches dans la poche.
Ah, c'est bien ça.
Ah,
c'est un beau slogan, vos proches dans la poche.
Ouais, bah, tu vois, je pourrais travailler pour.
Oui, un peu commercial pour la marque. Non,
on va rester sur RMC. Hein.
D'accord, très bien. Alors, si vous voulez repartir avec votre imprimante Agfa Photo, vous appelez tout de suite le 3216, la touche 4, ou vous envoyez le mot matin au 73216 par SMS matin au 73216. Bonne chance à tous.
À suivre dans la matinale week-end.
À suivre à 8h40, on fera un point sur la situation en Nouvelle-Calédonie avec la maire de Nouméa. Rendez-vous 8h40 sur RMC.
Et à 8h20, la Story Sports est avec vous, Julien Taxis, et les gants de boxe.
Et oui, on va parler de boxe, effectivement. Le combat du siècle avait lieu cette nuit chez les poids lourds. Tyson Fury face à Alexander Usyk, et le combat a tenu toutes ses promesses.
Rendez-vous à 8h20, Julien. À suivre aussi dans un instant, arrêtez de tondre sa pelouse au mois de mai pour favoriser la biodiversité, mouvement né au Royaume-Uni et qui prend de l'ampleur dans le pays. On va en parler avec notre invité Alexandre Barrault, chargé de recherche au sein de l'ONG Polynis. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Bon réveil avec RMC, il est 8h12.
Le témoin RMC.
Et le témoin RMC ce matin, c'est vous, Alexandre Barrault, chargé de recherche au sein de l'ONG Polynis, pour parler du No Mowed May, un mouvement né en Grande-Bretagne en 2019 pour encourager les particuliers à arrêter de tondre leur pelouse au mois de mai.
Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur en France. Et expliquez-nous exactement quelle est l'idée et pourquoi faudrait-il arrêter de tondre au mois de mai ?
Oui, alors bonjour. Le No Mow May, c'est une idée simple en fait, selon laquelle on invite les gens à arrêter de tondre sa pelouse pendant le mois de mai. L'idée derrière ça, c'est de garder un peu les fleurs et de garder les ressources, notamment pour nos pollinisateurs. En fait, les pollinisateurs, ils sont en déclin maintenant, on le sait depuis des dizaines d'années. Il y a plein de raisons à ce déclin. Ça va être des pesticides, ça va être la fragmentation de l'habitat ou la perte de ressources notamment. Et cette perte de ressources, c'est justement ça qu'on essaie un peu de contrebalancer à travers ce No Mow May, qui consisterait à laisser en fait finalement sa pelouse respirer pendant le mois de mai et en fait permettre aux pollinisateurs d'avoir des ressources pour se nourrir, pour se reproduire et donc garantir un maintien de la biodiversité pendant ce mois de mai.
Qu'est-ce qui se passe exactement quand on arrête de tondre la pelouse ?
Il se passe que simplement, on enlève les fleurs qu'il y a dessus. Le mois de mai, c'est un peu le début du printemps. C'est un moment où il y a beaucoup de fleurs. C'est un moment où il y a aussi beaucoup d'espèces d'abeilles qui commencent à émerger. Et donc, c'est important en fait de garder cette relation plante-pollinisateur au début du printemps pour permettre à cette biodiversité de s'exprimer.
Alors, il y a pas mal d'auditeurs et de réactions d'auditeurs sur l'application Direct Studio qui nous disent oui, mais en ce moment, il pleut souvent. Le mois de mai est pas très favorable au niveau de la météo. Donc, est-ce que c'est vraiment maintenant qu'il faut arrêter de tondre ?
Alors, c'est une bonne question. En réalité, le mois de mai, c'est un peu comme un symbole. Comme je vous ai dit, c'est le début du printemps. Maintenant, idéalement, c'est quelque chose qu'il faudrait faire toute l'année, en fait, laisser respirer un peu sa pelouse.
C'est-à-dire ne pas tondre toutes les semaines ou tous les 15 jours ?
Alors, voilà, exactement.
Il faudrait faire quoi dans l'idéal, en fait ?
L'idéal, en fait, ce serait...
Plus rien du tout. On va pas laisser totalement...
Non, tout à fait.
On peut pas
demander aux gens de laisser leur pelouse en friche tout le long de l'année. Quoi que s'ils peuvent le faire, c'est mieux.
On l'entend depuis tout à l'heure avec Pays, de nombreux auditeurs sont attachés aussi à leur jardin, à garder une certaine forme, un certain esthétisme. Donc, comment on fait dans ces cas-là ? Si on veut concilier les deux, c'est possible de concilier les deux ?
Oui, alors, deux solutions. Du coup, déjà, là, on parle juste du No Mow May, donc sacrifier un peu l'esthétisme pour un mois de mai, je pense que c'est pas inenvisageable. Maintenant, quand on parle de trucs qu'on peut faire toute l'année, il s'agit pas, en fait, de forcément laisser toute sa pelouse respirer toute l'année, mais simplement peut-être prévoir des petits carrés, des petites bandes fleuries dans son jardin.
Ça suffit.
Qu'elle, on laisserait toute l'année, voilà, respirer. Et alors, est-ce que ça suffit ? Ça suffira jamais assez pour la diversité, mais en tout cas, ça permettra déjà d'avoir quelques ressources pour les pollinisateurs qui en ont besoin à toutes les périodes de l'année.
Et dans l'idéal, si on ne tombe pas toutes les semaines ou tous les 15 jours, ce serait quoi ? Une fois par mois ?
Ça va dépendre beaucoup des fleurs, des pollinisateurs. Il y a des fleurs qui vont se développer très vite. Et donc, en effet, deux semaines, un mois, ça va peut-être être bon, mais il y a aussi des fleurs qui sont beaucoup plus lentes à se développer et on sait que parmi les 1000 espèces d'abeilles qu'on a en France, il y en a qui sont spécialisées sur certaines espèces de fleurs. Et donc c'est important de laisser la nature respirer sur le long terme pour avoir accès à des ressources un peu plus spécifiques.
Pourquoi, qu'est-ce qu'ils apportent les insectes ? Parce que je suis pas sûre que tout le monde réalise l'importance que ça a d'avoir justement tous ces insectes dans le jardin en fait. Qu'est-ce qu'ils apportent ?
Ils apportent déjà de l'émerveillement quelque part. La biodiversité, c'est quelque chose de beau. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut se raccrocher. Et maintenant, la biodiversité, elle est capitale pour plusieurs choses. Déjà, les résiliences des écosystèmes. Plus on a un écosystème divers, plus on aura un écosystème du coup résistant. Et surtout, ces insectes, c'est nos pollinisateurs en fait. Et la pollinisation, on en a besoin pour la reproduction des plantes à fleurs. 80% des plantes aujourd'hui, elles se reproduisent via la pollinisation des insectes. Et donc, ce déclin alarmant des pollinisateurs, il est inquiétant pour le maintien de la biodiversité végétale en même temps que celle des pollinisateurs.
Autre avantage, lorsqu'on arrête de tondre, il y a moins d'évaporation d'eau, les sols sont moins secs.
Oui, c'est un des effets secondaires finalement de ce nomomet. Ce serait que justement, quand on a une herbe un peu plus haute, comme vous avez dit, on observe une réduction de l'évaporation de l'eau des sols. Et ça, ça va avoir des impacts potentiels sur la structure des sols et donc sur la diversité du sol aussi. Et après, c'est un cercle vertueux qui se met en place finalement. On a une meilleure structure du sol, meilleure biodiversité, donc des plantes qui sont en meilleure santé, donc des pollinisateurs qui ont accès à des meilleures ressources, etc. Vous savez, dans la nature, c'est lié et donc c'est important de rien laisser au hasard.
Le message a été entendu par la ville de Saintes en Charente-Maritime qui a demandé à ses habitants de ne pas tondre les pelouses durant le mois de mai. Les jardins publics aussi parisiens ont pris l'habitude de ne plus tondre durant le printemps. C'est une bonne chose, il faudrait que toutes les collectivités s'y mettent. Donne l'exemple peut-être ?
Oui, tout à fait. Et c'est ce que je dis d'ailleurs souvent aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de jardin finalement. Mais finalement, leur jardin, c'est les jardins publics qui, quelque part, leur appartiennent un petit peu. Oui, c'est important du coup, pour ces gens qui n'ont pas de jardin, déjà d'en parler autour d'eux et peut-être faire un peu pression sur les municipalités, sur les politiques, pour qu'on puisse simplement avoir des jardins en meilleure santé, plus divers, sans pesticides.
Et peut-être même que ça devienne interdit de tondre au mois de mai sur les pelouses des jardins. Alors, je sais que ça va faire râler beaucoup d'auditeurs, hein, mais est-ce que vous y seriez favorable ?
Évidemment, évidemment que moi, j'y suis favorable. Surtout si on parle que du mois de mai, où c'est qu'un mois sur 12 dans l'année, je pense qu'on va s'en sortir.
Et pour ceux qui veulent continuer à tondre leur pelouse, mais qui sont pas totalement aussi au fait de garder une certaine hauteur, qu'est-ce qu'il faudrait exactement en termes de taille en fait ? Vous encouragez les gens à tondre moins ras ?
C'est vraiment pas tellement une question de taille, c'est une question de est-ce que les fleurs sont là ou pas, quoi.
Donc
dès l'instant qu'on observe des fleurs dans notre jardin, on peut penser à les laisser pour au moins quelques temps, le temps que les pollinisateurs se servent des ressources. Et après, si vraiment on a besoin de tondre pour des raisons personnelles, on peut pas empêcher les gens de vivre.
Un Français sur 5 aussi utilisait des pesticides, des herbicides en 2019. C'est un chiffre qui est quand même assez important. Un Français sur 5, oui. Peut-être aussi l'occasion de rappeler qu'on n'en a pas forcément besoin.
Ah oui, principalement dans les jardins, on n'en a clairement pas besoin. C'est important de s'en passer, c'est primordial de s'en passer. On ne se rend pas compte de toutes les cascades que ça peut avoir comme effet sur les pollinisateurs et d'ailleurs sur la biodiversité en général. On a déjà maintenant des agriculteurs qui arrêtent de les utiliser, pour qui ça marche très bien. Alors on peut quand même très bien imaginer qu'un particulier dans son jardin peut tout à fait essayer de s'en passer.
Merci beaucoup Alexandre Barrault, chargé de recherche au sein de l'ONG Pollinis, d'être intervenu ce matin sur RMC, de nous avoir donné comme ça des clés d'explication justement. Vous pouvez réagir à ce qu'il vient de dire au 32-16 et sur l'appli RMC onglet Direct Studio. On vous attend 8h19.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez les bienvenus sur RMC, 8h21.
RMC,
la story sport.
L'histoire sport du jour avec Julien Taxis.
Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
C'était hier soir en Arabie Saoudite, un combat de boxe extrêmement attendu chez les poids lourds entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk.
Un combat attendu depuis plusieurs années et dont la portée historique d'ailleurs était tout simplement unique.
Et oui, parce que ce combat donnait tout simplement l'occasion au vainqueur d'unifier les quatre ceintures dans la catégorie reine. D'un côté, le britannique Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC. De l'autre, l'ukrainien Usyk, champion en titre WBA, IBF, WBO. Cela faisait 25 ans qu'on n'avait pas vu un poids lourd détenir en même temps toutes les ceintures. Le dernier en date, Evander Holyfield en 1999. Voilà pourquoi l'on parlait de combat du siècle. Ce n'était jamais arrivé au 21e siècle. Et puis ce Fury Usyk, c'était aussi sur le papier un sacré combat entre deux boxeurs invaincus et une véritable opposition de style entre le fantasque Tyson Fury, un monstre de 2m06, et l'ukrainien Usyk, moins costaud mais beaucoup plus technique.
Alors les pronostics, les bookmakers donnaient Tyson Fury vainqueur. La logique a-t-elle été respectée ?
Eh bien non, ça n'a pas coupé. L'outsider Usyk s'est imposé. Il a déjoué les pronostics. Le combat a été jusqu'au bout des 12 rounds. Un choc spectaculaire, intense, au cours duquel Fury a parfois dominé, parfois chambré comme il aime le faire. Mais au 9e round, c'est une pluie de coups qui s'est abattue sur un Tyson Fury dans les cordes et au bord du chaos. Il était dans les cordes, il aurait même pu être arrêté par l'arbitre Fury, mais il a été sauvé par la cloche au bout de ce 9e round. Les 3 derniers rounds n'ont pas permis à celui que l'on appelle le Gypsy King de renverser la vapeur. Usyk s'impose au point sur décision partagée. Écoutez son émotion au micro du diffuseur d'Azone.
C'est un immense moment pour moi, ma famille et pour mon pays.
Alors un Ukrainien sur le toit du monde, c'est forcément symbolique. Volodymyr Zelensky a rapidement félicité son champion tout en faisant passer un message politique. Je cite, les Ukrainiens frappent fort et à la fin tous nos adversaires seront vaincus. Voilà les mots du président ukrainien. Tyson Fury a lui aussi un petit peu évoqué cet aspect dans son discours d'après-combat.
Je pensais avoir gagné. Il a remporté quelques rounds, mais la majorité était pour moi. Vous savez, son pays est en guerre et les gens le soutiennent pour ça, mais dans mon esprit, j'ai gagné ce combat. Nous allons maintenant rentrer chez nous, mais on se retrouvera en octobre.
Ah oui, d'accord. Donc il accepte pas la défaite.
Il a un petit peu perdu parce que les juges auraient soutenu l'Ukrainien. Mais oui, une revanche est prévue en octobre entre les deux boxeurs. En attendant, Alexander Usyk est entré dans la légende aux côtés des plus grands boxeurs de l'histoire.
Et vous serez là, évidemment. Oui. Julien Taxis, on pourra compter sur vous pour suivre cette revanche en octobre prochain. Merci beaucoup, Julien. Votre story à retrouver en podcast sur l'appli RMC. C'est l'heure de découvrir le nom du gagnant du 10 minutes chrono.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Il s'appelle Alain. Bonjour Alain. Bonjour Alain, 57 ans. Vous vous appelez des Pyrénées-Orientales de Céret. Et vous avez gagné. Bravo Alain. Est-ce qu'il nous entend? J'ai pas l'impression.
On n'a pas Alain.
Il est là, Alain. Comment ça va, Alain? Bonne nouvelle, vous avez gagné cette imprimante photo que vous allez pouvoir glisser dans votre poche pour garder tous vos proches avec vous.
Tout à fait.
J'espère que ça vous fait plaisir. On vous envoie ça. Oui. Bravo à vous.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui?
Aujourd'hui, sur Serré, c'est la fête de la cerise, donc avec bandage et puis. Plein de commerçants qui vendent plein de produits à base de cerises, comme Céret, c'est la capitale de la cerise. Voilà, c'est un week-end de fête.
Un beau dimanche.
Profitez-en, week-end de fête à la cerise, donc sur Céret. Bravo Alain, profitez-en bien et à très vite sur RMC, 8h25.
Le 10 minutes chrono sur RMC avec les cadres photo connectés APF1000 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affichent instantanément les photos vidéo envoyées de votre téléphone d'où que vous soyez.
Restez avec nous, puisqu'à 8h40, on va faire un point évidemment sur la situation en Nouvelle-Calédonie, où le gouvernement tente de reprendre la main, grande opération visant à reprendre la maîtrise d'une route stratégique, la route entre Nouméa et l'aéroport international, menée donc cette nuit avec plus de 600 gendarmes, dont une centaine du GIGN. On sera avec la maire de Nouméa juste après le journal. Merci beaucoup, soyez bienvenus sur RMC, merci de nous rejoindre, il est 8h30. L'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité. Tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut entendre ce matin. Toute l'actu en 5 minutes avec vous, Martin Bourdin, bonjour.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Le désarroi des habitants de Nouméa, très difficile de faire ses courses, de trouver de quoi manger ce matin. Des conteneurs de produits alimentaires sont arrivés en Nouvelle-Calédonie. On ira aussi voir l'état des caves en Moselle. La décrue est bien amorcée dans le département, mais il y a évidemment des dégâts. Et puis les commerçants appelés à garder le sourire pendant les JO cet été. Un manuel de conseil vient de leur être distribué.
Et d'abord, des denrées alimentaires et des médicaments sont arrivés ce matin en Nouvelle-Calédonie.
103 conteneurs ont été pris en charge dans le port de Nouméa. Les produits doivent maintenant être acheminés vers les lieux de distribution. Un ravitaillement très attendu par les habitants. Sur place, beaucoup de magasins ont été pillés, incendiés. Rares sont les supermarchés qui restent ouverts. Les files d'attente s'allongent devant ceux qui le sont ce matin. Ernest a bravé le couvre-feu, traversé les barrages pour aller faire ses courses. Il est indépendantiste, mais regrette la situation dans laquelle se retrouve son île.
Il n'y a plus de magasins. Tous les magasins, ils ont tous été brûlés. On a un peu la haine envers les gens qui ont fait ça. Après, c'est vrai que c'est notre cause, en fait. Les produits de première nécessité, et encore, il n'y a pas vraiment grand-chose. Des pâtes, du riz, ça va peut-être durer peut-être 2 ou 3 jours, c'est tout. Après, il faudra qu'on revienne et chercher d'autres magasins, parce que là, je pense que ça va se vider. Je ne sais pas maintenant faire comment.
Depuis ce matin, 600 gendarmes, y compris des membres du GIGN, sont mobilisés pour dégager une route stratégique entre Nouméa et l'aéroport international. On y revient dans moins de 10 minutes dans l'entretien RMC avec la maire de Nouméa. Les vigilances rouges ont été levées dans le Grand Est. Plus que 2 départements sont désormais en vigilance orange, au Cru, le Bas-Rhin et la Moselle. En Moselle, 130 personnes avaient été évacuées préventivement hier et ce matin. Beaucoup d'habitants comme Mathieu ne peuvent que se sentir impuissants en regardant l'état de leur cave.
Beaucoup d'eau,
Le coup d'eau et le ballon d'eau chaude qui est foutu. C'est une machine à laver, sèche-linge, c'est aussi foutu, quoi. Donc après, ben voilà, que de la décoration, hein, décoration, déco de Noël et tout ça, des paires de chaussures qui sont restées dans la cave. Donc voilà, on constate petit à petit tout ce qu'il y a et j'ai sauvé ce que j'ai pu, mais bon, ben le reste, ma foi, on fera avec, hein.
Hier soir, Emmanuel Macron a appelé les habitants à rester vigilants. Des orages accompagnés de pluie sont attendus aujourd'hui, notamment dans l'est de la France. Donc ce matin, je vous le disais, le Bas-Rhin est également en vigilance orange le long de la Sarre.
Une mobilisation symbolique des pharmaciens ce week-end de Pentecôte.
Des pharmacies de garde en grève tout ce week-end à l'appel de l'Union syndicale des officines. Ça ne devrait pas poser de problème. Si vous devez récupérer des médicaments, des pharmacies ont été réquisitionnées. Les pharmacies sont ouvertes, même si elles sont déclarées en grève. Un mouvement rare pour préserver l'avenir du réseau de pharmacies, explique Pierre-Olivier Variot, le président du syndicat.
Nos marges baissent et nos charges augmentent terriblement. Ce sont des fermetures d'officines qui se sont terriblement accélérées depuis un an. Troisièmement, un projet de loi pour favoriser la vente des médicaments sur Internet, ça s'appelle Amazon, et ça aussi, c'est la mort de la pharmacie. Quatrièmement, les ruptures de médicaments qui nous consomment un temps énorme, c'est en moyenne 12 heures par semaine pour trouver des médicaments. Et cinquièmement, une réforme de la dernière année d'études de pharmacie qui devait être là pour favoriser la mise en place des étudiants dans les territoires où on avait besoin de professionnels de santé. Eh bien, cette réforme, ça fait juste 7 à 8 ans qu'on attend et rien n'avance.
2 mois et 1 semaine, voilà ce qui nous sépare de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. 69 jours avant de voir des millions de visiteurs débarquer à Paris pour les Jeux. Alors, pour aider les commerçants à les accueillir au mieux, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris leur a distribué un petit carnet de 32 pages. Ça s'appelle Do You Speak Tourist. À l'intérieur, plein de petits conseils. Restez enthousiastes, partagez la joie du public, sachez guider et rassurer. Un petit rappel qui ne fait pas de mal, reconnaît François-Xavier, il est serveur à Paris.
Je pense que pour les restaurateurs, comme pour l'hôtellerie, comme pour plein de secteurs, c'est important d'être briefé, d'avoir des idées, parce que c'est vrai que c'est un événement qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Il va y avoir énormément de monde qui circule. C'est aussi au rôle des directeurs de brasserie de pouvoir conserver une équipe au top pour qu'on soit la plus accueillante possible. Je pense que pour toutes les brasseries qu'on les moyens, ça serait de poster vraiment une personne rien que pour l'accueil, qui est même pas là pour faire du service ou pour faire les boissons. On est quand même un secteur où la gastronomie, elle est primordiale. Donc les Jeux Olympiques, c'est aussi une occasion pour nous de montrer qu'on est présent, quoi. À nous de jouer le jeu, ça serait bien de briser les clichés, on va dire.
Mais au-delà de la gentillesse des commerçants, ce qu'on attend cet été, ce sont surtout des médailles, évidemment, et ça tombe bien, c'est ce que compte bien décrocher un
certain...
C'est
pas incompatible, Marc.
C'est pas incompatible, tout à fait. En tout cas, Victor Wembanyama, lui, il en attend des médailles avec l'équipe de France de basket. Wemby de retour chez lui hier à Nanterre, là où il a été formé. Wembanyama a notamment pris le temps de jouer avec quelques jeunes. Il s'est aussi confié sur son rôle en équipe de France cet été. Pas question pour lui de jouer les super-héros avec les Bleus.
Ça m'inspire de la patience et je viens pour apprendre de ceux qui sont certains des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France et j'ai aucun doute que les responsabilités sur le terrain seront réalistes. Je sais que on veut utiliser toutes nos armes et que mes coéquipiers seront prêts à me donner autant que de responsabilités que nécessaire. Mais je viens pas pour être le patron de ceux qui ont 5, 6, 7 campagnes dans les jambes.
Et puis le Louvre, la Conciergerie, le Centre Pompidou, des centaines de musées en France et en Europe sont restés ouverts jusque tard dans la nuit hier soir. C'était la 20e édition de la Nuit des Musées, un événement dont Jade a profité pour visiter la Monnaie de Paris avec deux amis. Alors Jade, on va l'entendre normalement, Jade qui a visité la Monnaie de Paris.
C'était sympa, enfin, moi j'avais vu la pub pour la Nuit Européenne des Musées depuis un petit moment et enfin, moi j'adore faire les musées et du coup c'est vrai que j'ai proposé à Mathilde et Marine parce que je trouvais que c'était une bonne occasion, surtout les nocturnes, enfin en musée moi j'adore ça, donc je me suis dit que c'était vraiment cool.
Et puis c'est pas forcément le premier musée où on irait, je pense.
Oui.
Il y a tellement de musées à Paris que c'est, ouais, je pense, pas le premier musée vers lequel on irait. Et du coup, c'est aussi l'opportunité de le faire.
L'opportunité donc de visiter des musées en nocturne, en plus, c'est toujours un peu sympa, ça donne une autre ambiance.
J'adorerais, mais le problème c'est que...
Oui,
entre
les musées ou dormir, il faut choisir.
Ouais, exactement. Merci beaucoup Martin Bourdin. Il est 8h36.
Et vous restez bien avec nous
sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h30 avec Perico Legas. Tiens, on va apprendre à faire un bon poulet du dimanche, bien doré, avec la peau qui croustille. Quel poulet choisir? Quelle cuisson? Quelle préparation? Perico va tout nous dire.
Et puis pour ceux qui préfèrent les merguez et les chipots, il y a le coup de main conso avec Martin Bourdin.
Exactement, je vous aide à allumer le barbecue en toute sécurité.
Rendez-vous tout à l'heure, 8h50. D'abord, sur RMC, la situation en Nouvelle-Calédonie où une grande opération avec plus de 600 gendarmes a été menée cette nuit. Objectif du gouvernement, reprendre la maîtrise de la route entre Nouméa et l'aéroport. On sera avec la maire de Nouméa dans un instant. À tout de suite.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end. Anaïs Castagna.
Il est 8h40 sur RMC.
L'entretien RMC.
L'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est vous, Sonia Lagarde, maire Renaissance de Nouméa.
Pour faire le point sur la situation sur place, alors qu'une grande opération est menée entre Nouméa et l'aéroport international, plus de 600 gendarmes mobilisés, dont une centaine du GIGN, opération annoncée cette nuit par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui affirmait vouloir reprendre totalement la maîtrise de cette route principale de 60 km. Bonjour, Sonia Lagarde. Est-ce qu'à l'heure où on se parle, c'est chose faite ? Est-ce que vous savez comment ça se passe ?
Alors, j'ai eu le haut commissaire il y a quelques heures maintenant qui m'a donné effectivement des nouvelles. Et donc, pas moins, vous l'avez dit, de 60 barrages qui ont été démantelés, parce que la priorité aujourd'hui avec les forces de l'ordre qui sont arrivées, c'est de libérer les axes qui entre Nouméa et l'aéroport, tout en sachant qu'entre Nouméa et l'aéroport, vous avez d'autres communes de l'agglo. Donc il fallait libérer ça, il faut aussi libérer donc 60 barrages, 600 gendarmes impliqués. Donc pour l'instant, c'est libéré. Il reste un axe important aussi qui est directement dans Nouméa et qui est qu'on appelle la voie de dégagement, c'est-à-dire c'est l'entrée et la sortie de la ville où là il n'y avait pas moins d'une dizaine de barrages, donc ils ont aussi dégagé ces barrages.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la situation là. Aujourd'hui ça veut dire qu'on peut commencer à circuler.
Alors, on peut commencer à circuler, je dirais pas ça, parce que sur les barrages, il y avait énormément de choses. Et donc, c'est l'armée qui va s'occuper, parce qu'on peut pas laisser ce qu'il y avait sur les barrages, tout ce qu'ils avaient mis, les pneus, etc. On peut pas les laisser sur les bords de route, donc il faut aller déblayer. Et une fois que ce sera fait, alors effectivement... J'espère qu'on pourra tous passer en toute sécurité.
Le ministère de l'Intérieur affirme que la nuit dernière a été plus calme en Nouvelle-Calédonie, notamment grâce à l'envoi de renforts. Est-ce que c'est le cas dans Nouméa et comment ça s'est passé là la journée ?
Alors, si les deux nuits précédentes, on avait observé un certain calme, la nuit dernière a été plutôt violente, je dirais. Beaucoup de barrages nouveaux ont été érigés, des voitures qui ont brûlé. Moi, j'ai une médiathèque dans les quartiers nord qui a brûlé cette nuit. Le pôle de service dans le même quartier de Rivière-Salée, c'est-à-dire une mairie annexe qui a elle-même est partie en fumée. Donc, on peut pas dire que c'était si calme que ça. Et le quartier où j'habite, moi, les quartiers Est, je peux vous dire que ça a tiré toute la nuit. Donc voilà, je pense que la nuit a été très difficile pour l'ensemble des forces de l'ordre, y compris pour ma police municipale.
Vous avez eu des mots extrêmement forts hier, je vous ai écouté, vous parliez de ville assiégée. C'est toujours le cas, ce sont toujours vos mots ce matin.
Oui, je dirais même qu'on est une ville martyre, voilà. Parce que on dégage les axes routiers, tant mieux que les services d'ordre sont arrivés en nombre conséquent. Il y en a d'autres qui vont arriver parce que la ville était totalement isolée. On a des quartiers nord aujourd'hui à Rivière-Salée où vous ne pouvez pas passer.
Combien de quartiers sont encore aux mains des émeutiers ?
Alors, les quartiers nord comme Ducos, comme Caméré, comme Rivière-Salée, Vallée du Tir. Voilà, ça c'est aux mains des émeutiers et c'est extrêmement compliqué. Il faut être de partout et il faut un service d'ordre et du personnel et de manière extrêmement conséquente. Alors, vous avez 4000 émeutiers dans la ville, vous rendez compte de ce qu'il faut en termes de force de l'ordre en face. Ouais.
On sait que 103 conteneurs ont été pris en charge dans le port de Nouméa, donc ils sont arrivés, mais du coup, est-ce que la distribution a commencé ?
Alors, les supermarchés, ceux qui sont encore debout, en particulier dans les quartiers sud, puisqu'il n'y en a plus dans les quartiers nord, donc ils ont ouvert ce matin, ils laissent rentrer les gens par 20, et puis voilà. Mais je sais que ça a été fait au niveau du port pour sécuriser et faire sortir des conteneurs, il en reste encore, donc le travail n'est pas fini.
C'est en cours.
Après, ça, c'est quelque chose. C'est en cours, effectivement.
Et est-ce que vous savez combien de supermarchés sont ouverts ce matin ? Enfin, ce matin, je dis ce matin, mais on est plutôt cet après-midi à Nouméa.
Oui, au nombre de 3, voire 4 au grand maximum.
Est-ce que les habitants ont accès ?
Il y a une vraie pénurie aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes inquiète ?
Oui, je suis très inquiète. Je suis très inquiète parce que. parce qu'on a affaire à des gens extrêmement bien organisés et extrêmement résistants. Voilà. Vous enlevez un barrage et puis vous en avez un autre qui va se faire dans l'heure qui suit. Donc voilà, tout ça est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup, beaucoup de force de l'ordre. Et c'est le.
Il y en a pas assez. Vous demandez encore des renforts. Il y en a qui vont encore arriver.
Il y en a
hein.
qui arrivent. Ouais. Oui. Il y en a qui arrivent cette nuit, effectivement, et qui seront d'un grand secours à ceux qui sont déjà là. Et non, mais la situation, elle est tellement compliquée quand vous avez des émeutiers qui veulent absolument en découdre, qui sont, je le dis, bien organisés. Vous enlevez un barrage, on en refait un. Donc voilà, c'est maintenant on a aussi des voitures, il faut le dire, hein, qui tournent avec des gens qui sont armés. Donc voilà. Ça complexifie encore plus la chose.
Madame la maire, concernant l'accès aux soins, on sait que ça a été compliqué, les soignants ont été obligés de rester à l'hôpital parce qu'ils ne pouvaient pas circuler. Les personnes touchées ont du mal aussi à y accéder. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Alors, il fallait libérer absolument l'axe d'entrée de ville, la voie dégagement, pour pouvoir, parce que le Médipôle est situé sur une commune de l'agglo, c'est-à-dire la commune la plus proche de Nouméa. Mais enfin, il y a quand même du chemin à faire pour y aller. Et donc, on ne pouvait pas. Donc, il laissait passer de temps en temps, sur les barrages, il laissait passer les ambulances quand il voulait bien, et puis d'autres fois, il voulait pas. Et on a une population océanienne dont beaucoup sont dialysés, et là, ça commence à poser un vrai souci, parce que il faut libérer les accès pour envoyer les gens au Médipôle. On a un centre de dialyse sur une commune périphérique au Mont-d'Or qui a été brûlé, donc il en reste un sur Nouméa, il en reste un sur la clinique de Nouville, et là, il faut passer des barrages pour y aller, et donc c'est compliqué parce qu'on laisse passer une voiture sur deux. Donc il faut rétablir ces axes de façon à ce que tout le monde puisse aller se faire soigner à l'hôpital et faire les dialyses en particulier.
Vous-même, vous arrivez à vous déplacer?
Alors moi, je me déplace, je ne peux pas aller voir les dégâts qu'il y a dans mes bâtiments publics dans les quartiers nord, parce que vous ne passez pas pour l'instant. Voilà. Donc c'est extrêmement difficile. En plus, on a des caméras de vidéosurveillance qui ont été saccagées. Donc on a perdu une cinquantaine de caméras, ce qui rend le travail des policiers extrêmement difficile, parce qu'ils partent à l'aveugle. Voilà. Donc vous voyez que la situation, elle est pas simple.
Elle reste très compliquée. Sonia Lagarde, quelle peut être l'issue de cette crise? La présidente de l'Assemblée a plaidé devant le Premier ministre pour un report du Congrès devant valider la réforme électorale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors je suis complètement d'accord avec ça. Je le dis et je le redis depuis plusieurs jours, il faut faire une pause dans cet espace qu'on pourrait appeler institutionnel, c'est-à-dire avant de déclencher le congrès à Versailles. On a besoin de cette pause pour essayer de ramener le calme. Tous les discours à l'apaisement ne marchent pas. Et donc, on se dit que l'ultime recours qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est effectivement de faire cette pause et de calmer le jeu et de remettre tout le monde autour d'une table pour essayer de discuter et de trouver les voies et les moyens du consensus.
Merci beaucoup, Sonia Lagarde, maire Renaissance de Nouméa, d'avoir fait le point avec nous ce matin sur RMC. Donc, vous nous disiez, opération toujours en cours sur cet axe entre Nouméa et l'aéroport international. 60 barrages ont été démantelés. 600 forces de l'ordre, gendarmes restent mobilisés. On va suivre ça, évidemment, sur RMC. 8h49.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna. Entre nous, c'est
le temps qui s'enfuit. Chimène Badi ce matin sur RMC. Pourquoi? Parce qu'elle va proposer un nouvel album de reprise en novembre prochain. Album qui sera la suite de son projet Gospel and Soul. On y revient dans deux minutes.
Mais d'abord,
RMC.
Le coup de main conso.
RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien avec Martin Bourdin.
Bonjour Martin.
Bonjour à tous.
C'est dimanche et ce midi chez vous. Le programme, c'est peut-être.
Ça change de Chimène Badi.
Ça tombe bien, c'est aussi au programme du coup de main conso de Martin Bourdin. Le barbecue, c'est bien Martin, mais pas partout.
Et surtout pas en intérieur. Je sais, ça peut paraître évident, mais pas pour tout le monde. Visiblement, il y a 10 jours, 4 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone dans les Yvelines après avoir organisé un barbecue chez eux. Et quand je dis chez eux, c'est chez eux à l'intérieur d'un appartement, ce qui est évidemment très dangereux, vous l'avez compris. Donc si vous voulez faire un barbecue, faites-le en extérieur.
Bon, mais dans un appartement, l'extérieur, c'est au mieux un balcon. Est-ce qu'on a le droit de faire un barbecue sur un balcon?
Eh bien légalement, rien ne l'interdit. Vous pouvez faire griller vos légumes ou votre côte de bœuf sur un balcon à une condition. condition que ce soit autorisé par votre copropriété ou au sein de votre lotissement. C'est pareil pour les plans de chat. Donc avant toute chose, lisez le règlement de votre bâtiment. Il est remis à tous les propriétaires et les locataires peuvent aussi en faire la demande. Parfois, les barbecues peuvent être interdits totalement ou parfois certains jours seulement, mais souvent, rien ne l'interdit. Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle pour vous, mais attention, quand même, pas question de faire n'importe quoi. Il ne faut pas que le barbecue devienne une nuisance pour vos voisins. On pense évidemment aux odeurs de fumée.
Oh, je trouve pas ça gênant. Moi, ça me fait envie. Je vais tout vous dire.
Alors, ça dépend.
Ah bon?
Si ton voisin, il fait barbecue matin, midi, soir.
Oui, d'accord. Pas exagéré. Mais voilà. Moi, je vais tout vous dire. J'ai pas de terrasse, j'ai pas de balcon, j'ai rien du tout.
Et tu fais des barbecues.
Et non, en bas de chez moi, j'ai des propriétaires qui ont la chance qui ont la chance d'avoir une super terrasse et ils font des barbecues. Et j'ai trop envie de m'inviter.
Il faut poser la question. L'autre problème qui peut être peut-être un peu plus problématique dans les barbecues, dans les bâtiments communs, c'est la fumée qui peut aussi venir noircir les murs. On sait, avec le charbon, ça peut noircir les murs et c'est embêtant pour toute la copropriété. La meilleure solution, donc, quand vous êtes en appartement, c'est peut-être le barbecue électrique. Alors certes, il n'y a pas l'odeur, le goût est peut-être pas forcément le même, mais c'est peut-être le meilleur compromis.
Peut-être. Ça, c'est pour les appartements. Il y a aussi des règles à respecter quand on est en maison et qu'on fait un barbecue dans le jardin.
Oui, alors on est un peu plus libre, évidemment, dans une maison. Mais oui, il y a des règles à respecter. C'est surtout des conseils, des règles de savoir-vivre, finalement. Laisser 1,50 m d'espace libre autour du barbecue pour éviter les incendies, éviter de les placer près de végétaux secs ou du mur du voisin, évidemment, là aussi, pour éviter tout problème d'incendie. Il faut surveiller aussi le sens du vent, tiens, pour éviter que la fumée aille directement chez les voisins. Si eux aussi sont en train de manger en terrasse, ça peut poser des problèmes de voisinage éventuellement. La seule loi qui s'impose finalement dans votre jardin, c'est si vous voulez construire un barbecue en dur de plus de 5 mètres carrés, on est sur du bon barbecue de compète là, il faut déposer un permis de construire.
Ah oui,
S'il fait plus de 5 mètres carrés, alors tous les barbecues ne font pas plus de 5 mètres carrés, mais s'il fait plus de 5 mètres carrés, il faut un permis de construire. Et puis si jamais vous avez envie de faire ça dans un parc, vérifiez quand même si vous avez le droit auprès de votre mairie. Ce n'est pas autorisé partout à Paris, par exemple. C'est interdit de faire un barbecue dans des parcs ou sur les quais, par exemple. Ça peut vous exposer à une amende de 127 €. Donc vérifiez bien, histoire de profiter à fond de vos grillades.
Mesdames et messieurs, la côte de bœuf. Voilà, c'est parti.
Elle est bonne, camion.
Mon secret, une bonne brève.
Mais alors, c'est quand le barbecue chez Martin Bourdin?
Eh bah, ben, faut qu'on se cale ça.
Peut-être
que j'achète un barbecue d'avant. Je vous ferai signe.
Ouais.
Merci, Martin. Votre coup de main qu'on soit retrouvé en podcast sur l'appli RMC.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec vous, Peggy, on parle de Chimène Badi.
La chanteuse a célébré ses 20 ans de carrière. C'était l'année dernière avec l'album de reprise Souvenez-vous d'Edith Piaf.
Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps.
Et vendredi, elle a dévoilé un premier titre d'un album qui sortira en novembre 2024, un album de reprise. Alors, c'est pas la première fois que Chimène Badi revisite des titres. Souvenez-vous, en 2011, elle avait sorti l'album Gospel and Soul, des reprises de standards américains et français, avec la chorale Liberty Gospel, dont un titre en duo avec Billy Paul, s'il vous plaît. Ain't No Mountain High Enough, un titre de Marvin Gaye à l'origine. L'album sera donc la suite et s'appellera Gospel and Soul, la voix et l'âme, avec des reprises et titres de Céline Dion, d'Amy Winehouse, Michael Jackson, mais aussi des chansons inédites écrites et composées par Icar ou encore Tété, et une reprise de...
Plus jamais des adieux, rien que tes au revoir.
De Johnny.
Eh oui, évidemment. Johnny Hallyday
avec qui elle a déjà chanté.
Oui, avec qui elle a partagé la scène, exactement. Et le premier titre dévoilé pour cet album, c'est...
Noir, c'est noir. Il n'est jamais trop tard.
Noir, c'est noir, sorti à l'origine en 1966. Alors, je ne sais pas si vous savez, c'était une adaptation française du titre Black is Black du groupe Los Bravos.
Je ne savais pas.
L'album Gospel and Soul sortira en novembre prochain. Et notez déjà que Chimène Badi sera en concert au Grand Rex à Paris le 4 mars 2025.
Peggy, mars 2025. Merci beaucoup, 8h55. Bon réveil.
Noir, c'est noir. Il n'est jamais trop tard. Pour moi, du gris. Je n'en veux plus dans ma vie.
La matinale week-end.